Une petite fille, Daphné Dumouriez, Les Murs, c'est la règle de trois de Tatiana Deronet. Elle rédige son premier livre, Une petite fille nommée Carrie, à l'âge de 10 ans. En 1984, sa mère anglaise, Stella, son père français Joël, qui viennent de sortir un essai sur l'avènement de l'ordinateur, sont invités dans l'émission Apostrophe et ne peuvent s'empêcher d'évoquer la vocation de leur fille.
Vous dites que votre fille, Tatiana, 23 ans, est en train d'écrire un roman sur l'ordinateur.
Tatiana a écrit un roman et moi je tape ma correspondance et Joël aussi fait son travail.
Enfin, publié en 1992, Tatiana Deronet sort 7 livres qui se vendent peu. Le 8e, elle s'appelait Sarah, refusée par une quarantaine d'éditeurs et finalement acceptée par Héloïse d'Ormesson.
Je lui disais du bien dans son livre, je lui disais que je voulais le publier et j'avais en face de moi une femme absente, enfin qui avait l'air,
je n'y croyais plus,
complètement interdite. Je me disais, le roman est vraiment bien, mais cette femme est vraiment curieuse.
Elle s'appelait Sarah, se vend à plus de 11 millions d'exemplaires. L'écrivaine britannique Daphné Dumouriez a vécu de 1907 à 1989. « Cette femme me fascine, elle m'a donné envie d'écrire », dit Tatiana Deronet. Autrice de 3 œuvres, adaptées au cinéma par Alfred Hitchcock, Rebecca, l'auberge de la Jamaïque et les oiseaux, elle a publié son premier roman The Loving Spirit en 1931.
« I always wanted to be independent. Not from any antagonism to the family, but simply so that they didn't have to pay for my... »
Enfant, Tatiana Deronet signait ses manuscrits Tatiana Dumouriez. En 2015, alors qu'elle rédige sa biographie, elle vaporise le parfum de l'autrice anglaise dans toute la maison et même dans son propre lit.
C'était plutôt quelqu'un qui aimait la solitude, mais qui avait en même temps une vie de famille. Elle était double en fait, Daphné Dumouriez. Elle avait plein de secrets.
Selon Tatiana Deronet, Les Murs racontent des histoires du passé susceptibles de bouleverser le présent de ceux qui les entendent. En 2008, l'héroïne de son livre Mémoire des Murs connaît ce genre de révélation.
C'est une blessure secrète qui va la faire basculer de plus en plus vers une terrible spirale de folie.
Les murs, les maisons, les appartements constituent une obsession chez elle. Dans l'épigraphe de son nouveau roman, elle cite Gaston Bachelard. Non seulement nos souvenirs, mais nos oublis sont logés. Notre inconscient est logé. Notre âme est une demeure.
Voilà, en tout cas, on espère que vous aimez bien ce studio. Hein,
oui,
vous
je me sens très bien ici. Ça
très
va.
Bien. Alors, on l'a vu au départ, vous avez été refusé par 40 éditeurs pour ce livre. Elle s'appelait Sarah, qui a finalement été vendue à 11 millions d'exemplaires. Quand vous les croisez maintenant, ces éditeurs, comment ils vous regardent? Est-ce qu'ils ont, ils vous disent, bon, bah voilà, c'était à l'époque, on ne vous connaissait pas, ou ils sont un petit peu mal à l'aise?
Alors, ils ne sont pas tous en France. Hein. C'est sûr que ce livre a été aussi montré à l'étranger et personne n'en voulait à ce moment-là. Je crois que c'est une histoire de timing. Donc, de temps en temps, je croise des éditeurs qui l'ont refusé, ça je sais. Donc, ils me regardent toujours un peu. Le temps a passé, ceci dit, depuis. Hein, ça fait quand même 12 ans. Alors, moi, je les regarde et je fais un peu comme la reine. Je fais comme ça.
Ah, c'est
voilà.
Vous êtes bilingue, vous êtes franco-britannique.
Absolutely.
Vous écrivez en français et en anglais. Ce livre, vous l'avez écrit en même temps?
Oui.
En français et en anglais, comment fait-on, sachant que chaque langue a son imaginaire, sa musique, ses soubassements, on passe d'une page à l'autre? Expliquez-moi.
Alors ça a été une expérience comme dans un laboratoire en fait. D'habitude j'écris soit en anglais, soit en français. C'est d'ailleurs un choix que je dois faire qui est cornélien puisque j'ai deux langues d'écriture, deux langues maternelles. Et là, pour les besoins de ce livre qui explore justement ce que j'appelle les cerveaux hybrides, les cerveaux bilingues, je me suis dit, je voudrais essayer d'écrire ce livre en même temps dans les deux langues. Donc, je ne pensais pas pouvoir le faire. Je me suis lancée. J'avais une page en français sur mon ordinateur, une page en anglais.
La même, ça racontait la même chose.
Et j'allais de l'un à l'autre, en fait. Et j'adaptais en permanence. Donc, je ne peux pas vous dire que un passage est traduit de l'autre. C'est une auto-adaptation permanente. Alors, ça a été au début un exercice assez... on va dire intense, j'avais l'impression d'avoir de la fumée qui sortait de mes oreilles. Et puis tout d'un coup, j'ai compris que ce livre-là, il fallait que je l'écrive dans les deux langues. C'était pas possible de choisir une sur l'autre.
Mais ce livre se passe chez nous, dans un Paris qui en plus était un Paris martyrisé.
Dans un futur proche.
15 ans, oui. C'est dans 15 ans.
Oui.
La langue anglaise ne regarde pas Paris détruit comme la langue française peut regarder sa propre ville. C'est pas la
Alors,
même.
Mon héroïne est franco-britannique, c'est un des seuls points communs qu'elle a avec moi. Sinon, c'est pas moi, je le précise. C'est très difficile pour moi de vous dire quelle langue, quelle particularité a une langue sur l'autre, puisque moi je suis née avec les deux langues. Il y a plein de bilingues qui existent, hein. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que je suis la seule, mais il fallait que j'entende la même musique, comme si j'avais une chanson, des notes, mais je savais que les notes françaises et les notes anglaises étaient particulières, mais il fallait qu'elles aient le même son pour moi. Et donc je n'ai pris aucune liberté avec ce texte. Chaque mot, chaque phrase est pour moi égal dans les deux langues.
Alors ce qui est assez étonnant avec vous, Tatiana Deronet, c'est qu'on vous donne presque les talents de prophétesse, hein, on peut dire ça comme ça, puisque avec les Sentinelles de la Pluie, votre précédent livre, bah, c'était une crue hein, qui était en train de ravager Paris. Là, ça se passe dans 15 ans. Vous imaginez un Paris désert, bah, c'est bizarre parce que c'est justement ce qu'on a vécu.
Mais jamais je n'aurais pu croire un instant que ces passages où je décris ce Paris désert, où il faut rentrer chez soi, c'est une canicule terrible qui s'abat sur Paris dans mon livre, mais il y a quand même des drones qui survolent en disant « rentrez chez vous ». Et donc mon héroïne est confinée chez elle, je ne sais même pas le mot confiné, il n'a plus la même signification aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était très très étrange pour moi de revoir ce texte à cette lumière-là. Et donc je vais faire un petit peu attention pour le livre que je suis en train d'écrire maintenant.
Oui, merci pour nous en tout cas.
Voilà.
Une chose, alors c'est vrai que votre héroïne dedans est prise dans un appartement qui est rempli d'intelligence artificielle, elle va vraiment s'interroger à ce propos et... Justement, Camille, on voit que de temps en temps, eh bien, la réalité, même pas de temps en temps, actuellement, la réalité a même rejoint la fiction.
Hein. Oui, on dirait un scénario de science-fiction, mais c'est une histoire bien réelle, une intelligence artificielle pour lire dans nos pensées. Ça se passe à l'Université de Californie à San Francisco, où une équipe de chercheurs a mis au point un ordinateur relié à des implants cérébraux capables de retranscrire vocalement une phrase émise par le cerveau, mais qui n'a pas été prononcée. Ça marche dans 97% des cas. Les résultats ont été publiés en avril dernier dans la revue Nature Neuro. Sciences. Cette technologie, eh bien, elle doit servir aux patients qui sont privés de l'usage de la parole. Un espoir, par exemple, pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Mais on n'y est pas encore tout à fait, hein, puisque cette étude, elle porte sur un corpus d'une cinquantaine de phrases seulement. Mais les débuts sont prometteurs. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que cette étude, elle est financée par Facebook, qui, à terme, a d'autres ambitions, évidemment, pour cette technologie. Mark Zuckerberg imagine déjà nous permettre de communiquer avec nos amis par la pensée. Et il n'est pas le seul sur le coup. Un autre milliardaire de la Silicon Valley, Elon Musk, le patron des automobiles Tesla, planche aussi sur la question avec son projet Neuralink, qui doit faire l'objet d'un premier essai clinique d'ici la fin de l'année 2020. Les géants de la technologie vont-ils bientôt avoir accès à nos pensées les plus secrètes, pénétrer jusque dans les recoins de notre cerveau? Tatiana Dronet, est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que ça vous inquiète?
Alors, il y a une scène dans mon livre, hein, dans une salle de bain connectée, où Clarissa est absolument persuadée qu'on essaye vraiment, doit fixer quelque chose dans le miroir. Elle est persuadée qu'on est en train d'essayer de pomper sa pensée. D'ailleurs, toute sa paranoïa naît de ça. Je ne vais pas vous dire que ça ne m'inquiète pas. Quand on lit quelque chose comme ça, quand on se renseigne, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais mon Dieu, comment on va lire dans mes pensées, on va lire ce que je pense, on va lire mes rêves. C'est inquiétant, mais j'ai voulu le traiter ici, dans ce livre, par le biais de l'intimité d'une femme. Je n'ai pas voulu faire étalage d'une connaissance technique que je n'ai pas d'ailleurs. J'ai voulu vraiment explorer comment notre paranoïa naît de ce que vous venez de décrire. Parce que c'est quand même très troublant de se dire qu'on va communiquer avec nos amis sur Facebook par la pensée.
Mais alors, franchement. Mais chose assez étonnante, c'est vrai que votre père, hein, Joël de Renais, on le connaît parce que
à qui le livre est dédié.
Voilà, il est dédié, mais donc c'est l'ancien aussi directeur de la Cité des Sciences à la Villette, passionné de sciences. Vous-même, vous êtes un peu rétif à la technologie ou pas?
Non, pas du tout. D'ailleurs, mon père nous a toujours parlé du futur avec beaucoup d'enthousiasme et avec cette phrase qu'il a piquée à quelqu'un, je ne sais pas très bien à qui, je pense que c'est Woody Allen. Le futur m'intéresse parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. Papa a toujours regardé le futur avec un certain optimisme. Je ne suis pas aussi optimiste que lui. Je dirais que je suis peut-être une optimiste inquiète. Mais si on voit tout en noir et si on se convainc que déjà le futur est atroce et ce qui nous attend est épouvantable, bah, écoutez, à quoi bon? Donc ce livre montre quand même une certaine forme de résilience face à ces nouvelles technologies et comment cette intelligence artificielle s'immisce à tous les niveaux de notre vie.
Et bah ça, c'est-à-dire justement dans Les Fleurs de l'ombre, hein, c'est signé donc Tatiana de Renais, publié chez Robert Laffont